Bonjour tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir être parmi vous à titre de directeur du district. C'est à ce titre-là que je suis parmi vous aujourd'hui. En tant que responsable donc des assemblées de l'Alliance au Québec, c'est un grand privilège que de pouvoir être ici et de pouvoir célébrer ce moment. Je tiens à vous dire que on le célèbre en même temps un peu partout au Canada. Je recevais une note de John Healy, le directeur d'un autre district qui est très content de ce moment qu'on vit présentement et à quel point nos autres églises, un peu partout au Canada, prient pour ce projet, celui de Cloverdale, parce que c'est quelque chose qu'on veut soutenir, de voir l'œuvre de Dieu s'accomplir ici. Je sais que tous les rouleux, si on peut les appeler comme ça, les riders, ou les qui sont venus cet été, et tous ceux qui ont supporté ont continué de le faire, et je sais que d'autres fonds vont s'ajouter aux fonds qui ont déjà été attribués pour soutenir le projet ici. Gloire à Dieu pour ça. Alors qu'on va se diriger dans quelques instants vers une assignation tout à fait particulière, je vais inviter Sonny et Elsa à venir s'asseoir ici, à côté de moi, pas parce qu'ils sont plus spéciales que d'autres, ça va juste dégager des chaises pour du monde. Pour David et venir vous asseoir. C'est une blague. Mais parlant d'assignation et de moments de présentation comme ça, moi je tiens à saluer quelqu'un qui est ici, qui a participé dans ma vie en tant que mentor à un moment de ma vie, alors que je me préparais moi-même pour ça. Il s'agit de Richard Nestor et Alice qui sont là. Et je tiens à louer le Seigneur pour des personnes comme eux, qui ont été d'une grande influence dans ma jeune vie pastorale alors qu'ils étaient ouvriers à Rimouski et que j'étais à Matane, un peu rebelle, me semble, à cette époque-là. Je sais pas. Mais on avait des bons cafés ensemble. Alice, tu te souviens, hein? Et je tiens à souligner leur présence avec nous et ça me réjouit énormément de vous avoir de retour parmi nous au Québec. Gloire à Dieu. C'est des vétérans, frères et sœurs, qui ont travaillé très fort à l'œuvre de Dieu. Ouais. Et voilà. Peut-être avant, j'ai quoi, 2 heures à peu près, c'est ça? Non, mais il faut bien que ça passe. Peut-être vous donner quelques nouvelles. Avant, on était un peu partout, de Gatineau à Lévis, en passant par d'autres endroits, des églises chinoises et vietnamiennes, et de voir l'œuvre de Dieu dans chacune de celles-là. C'était intéressant de participer à l'église chinoise lors de leur 40e anniversaire et qui sont en train de se demander ensemble comment Dieu veut continuer de les bénir dans ce qu'ils font. Ils sont en train d'implanter une église présentement dans la région de Québec et qui est rendue déjà une trentaine de personnes qui assistent. C'est incroyable et c'est ce qui est encore plus spécial, c'est qu'ils se réunissent dans notre église de Lévis, là, qui les accueille. Donc, c'est un peu une aventure qui se fait entre réseaux, donc le réseau des églises chinoises avec notre réseau francophone là-bas qui les accueille. C'est vraiment tout particulier de voir ça arriver. L'Est du Québec, alors que je vous avais déjà partagé à quel point il y a de grands défis dans l'Est du Québec, comment les attaques spirituelles, ils sont très grandes. Dieu fait point d'une lumière là-bas, alors qu'il y a toutes de nouveaux développements et de nouvelles orientations qui sont en train de se vivre. Et Dieu veut lancer toutes sortes de nouvelles choses là-bas. Et je loue le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Et probablement qu'au cours des prochains semaines ou mois, là, je pourrais vous en dire davantage sur tout ce qui est en train de se passer là. À Lévis également, c'était un grand moment la semaine passée de pouvoir sentir le cœur des frères et des sœurs là-bas qui veulent s'engager, qui s'engagent déjà dans un lien de fil invisible avec Colette Baudet et qui en Afrique, quelque part, c'est où Colette Baudet? C'est quel pays, Colette? Guinée, merci. Et qui, dans la station de radio là-bas, et tout le développement de ministère qu'ils ont avec elle là-bas. Et c'est vraiment tout spécial de voir comment l'Église a ça à cœur, et a à cœur également de rejoindre sa communauté en vue de la transformer pour l'œuvre de Dieu. Vous parlez également d'une famille qui est en train de partir. J'étais à Gatineau. Il y a deux semaines avant. L'autre, ça vient que ça il y a tellement de choses qu'on ne sait plus où ça se situe dans le temps. Mais à Gatineau, c'était tout à fait spécial également d'être là avec Murray Dirksen, qui est le responsable de la route du soleil, et qui et on voit donc Martin, Nadia et les enfants partir donc pour le Venezuela. Ils vont être en route pour le Costa Rica dès le début de janvier pour apprendre la langue espagnole pendant un an, et pour ensuite donc se diriger au Costa Rica merci Daniel, au Venezuela. Il y en a qui écoutent. je faisais exprès. Au Venezuela donc pour pouvoir servir le ministère du Seigneur là-bas. Écoutez, c'est vraiment particulier là-bas. Il y a un pays extrêmement violent, un pays où il y a beaucoup de luttes qui sont là. Mais Dieu a placé un appel clair sur leur vie pour se rendre là. Et prier donc pour eux, continuer de les soutenir, continuer de les encourager, de prier. Et on aura toutes sortes de manières de pouvoir le faire. Oh, pardon? Nadia. Les parents à Elsa. Ouais. Et le beau-père par la même occasion. Et prier pour l'église de Gatineau qui est en transition, bien sûr. Il y a présentement Michael Gagnon qui va assurer un intérim jusqu'au mois de juin. Et par la suite, donc, les processus sont en cours pour trouver un nouveau pasteur. Et vous savez, parlant de pasteur, ben écoute, c'est ce qu'on est en train de faire, d'installer. On utilisait ce mot-là, je savais que je le glisserais à un moment donné, mais d'assigner Sonny et bien sûr Elsa dans ce rôle-là. Et là, je vais ouvrir mes textes pour pouvoir me retrouver. Je voulais faire ça à l'ancienne, donc pas de PowerPoint. Mais il n'y a pas grand place à la tribune. Bon, comme ça. Et se dire à quel point le rôle de pasteur a beaucoup changé au fil des temps. Et de voir comment Dieu, maintenant, dans cette société, utilise ces hommes, ces personnes-là, ces femmes-là, pour œuvrer dans son œuvre un peu partout, est pas mal différent de ce qu'on en pense. Dieu a un appel tout particulier chez ceux qu'il veut voir jouer ce rôle dans notre société, et à quel point l'importance donc d'être des ouvriers qui soient à la fois consacrés et contemporains, donc double C, dans leur société, dans leur culture, dans ce monde, pour pouvoir l'appréhender, le comprendre, le saisir et mieux le rejoindre. Et vous savez, c'est le cœur de ce que l'Évangile de Jean nous résume du ministère de Jésus dans Jean chapitre 1, verset 14, quand il est dit que Jésus a vécu parmi nous. Et le mot « parmi nous », il a vécu parmi nous, c'est qu'il a tenté parmi nous. Il a établi sa tente parmi nous. Et je pense que le fait que Dieu a envoyé Jésus-Christ faire ça démontre à quel point il a voulu venir prendre sa place avec et au sein de nous. Et non pas à l'extérieur ou dans un groupe séparé. Jésus est venu pour rejoindre tous ceux qui avaient besoin de lui. Et c'est ainsi donc qu'on voit nos ouvriers pouvoir se déployer ainsi. Et quand Jésus va dire plus tard à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est donc de cette même manière-là que le Saint-Esprit vient placer son appel dans nos vies. Malgré le fait que des environnements changent, que les temps changent, les environnements changent, les sociétés peuvent changer, il y a certains éléments qui, eux, ne peuvent pas changer, ne changent pas parce qu'ils font partie du cœur de ce que Dieu place dans la vie des gens. En regard de ses serviteurs. Et j'aimerais donc avec vous explorer brièvement Ésaïe, le livre d'Ésaïe au chapitre 42. Au chapitre 42. Il faudrait bien qu'il y ait au chapitre 42, versets 1 à 7. Oui. Et on a là un passage fort important. Bien sûr, le prophète Ésaïe fait là une prophétie en ce qui a trait au serviteur par excellence, et qui, bien sûr, dans l'histoire, va s'appliquer de façon parfaite à Jésus-Christ qui va venir plus tard. Et donc, j'aimerais, quelqu'un qui l'a déjà, qui pourrait nous lire Ésaïe chapitre 42, les versets 1 à 7, s'il vous plaît. Je suis un ancien professeur, donc si vous le faites pas, je vais désigner quelqu'un. Merci. Oui, il y a déjà debout. Une des premières choses qui ressort au tout début de ce passage-là, et c'est sans doute la plus importante au niveau de ce serviteur que l'Éternel approuve, eh bien, c'est justement ce mot-là, le mot de serviteur. Alors que Dieu nous appelle à le servir, et souvent à le servir de manière particulière dans un rôle pastoral, on a d'abord, et souvent on va appeler ces rôles-là de leadership. On va parler de leadership, puis l'importance du leadership. Mais vous savez, il n'y a pas de leadership qui s'exerce dans l'Écriture sans qu'elle passe d'abord par le rôle de serviteur. Et c'est ce dans quoi d'abord le Seigneur veut nous appeler. Nous apprendre à être des serviteurs d'abord. Et ce mot-là est clé dans l'ensemble de ce que le Seigneur est en train de dire ici par la bouche du prophète Ésaïe. Apprendre à être serviteur, c'est comme Jésus a fait lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Alors qu'il va dire à ses disciples, juste auparavant, avant ce repas-là, ses disciples s'en vont sur la route avec lui et ils commencent à chicaner entre eux, savoir lequel qui serait le meilleur, lequel qui les remplacerait, parce qu'ils ont commencé à savoir que finalement, il va finir par s'en aller, puis oh, faudrait bien trouver quelqu'un pour le remplacer, il faudrait bien trouver quelqu'un qui va prendre sa place, puis oh, peut-être que c'est moi, puis là, il y en avait deux ou trois qui se pensaient déjà meilleurs, et... Là, il dit, hey, on peut-tu, moi, un tête à gauche, puis un autre à ta droite? Puis, ça me semble que ça ferait l'affaire. Et Jésus leur dit, écoutez, dans le monde, là, ça marche de même. Dans la société du monde, là, diriger, ça marche comme ça. Mais il n'en sera pas de même parmi vous. Il n'en sera pas comme ça parmi vous. Et vous savez, on aurait toute une série de messages à faire juste sur ces mots-là. Il n'en sera pas comme ça parmi vous. Parce que trop souvent et très souvent, on arrive à l'approche du leadership avec nos propres idées préconçues, avec des expériences de vie sur le leadership qui sont pas renouvelées, qui sont pas renouvelées spirituellement. Jésus leur dit, si tu veux être le premier, tu seras le dernier. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et l'esprit de service, c'est ce qui caractérise cet appel-là que Dieu veut placer sur vous. L'esprit de la serviette blanche. Pas évident. On va revenir là-dessus, sur l'esprit de la serviette blanche. Pour qu'il puisse bien se développer, pour que vous puissiez dire un jour, Seigneur, tu nous as assis là, et on est en train d'être assigné. Ça prend un appel. Et voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Et vous savez, vous avez reçu à un moment donné dans votre vie, vous avez senti dans votre cœur un appel. Et il vient un moment où... quand on commence ou quand on exerce, qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que c'est, à quelle forme ça va prendre, et on s'implique et on fait « Dieu, à un moment donné, avec le temps, on dit souvent que l'appel est comme une photo Polaroid, c'est-à-dire qu'elle se clarifie avec le temps. Une photo Polaroid, pour ceux qui existent encore dans cette société-là, aujourd'hui... OK, je vais prendre un autre exemple. C'est comme un vieil ordinateur, là, puis quand la photo apparaît, plus ton Internet est lent, plus ça prend du temps pour que la photo soit claire. Hein? Donc, une Polaroid, c'est à peu près la même chose. Hein? Tu soufflais dessus, n'as-tu qui ont une Polaroid? Fallait que tu la secoues, puis après un certain temps, elle devenait claire. Mais l'appel de Dieu est à peu près comme ça. C'est avec le temps qu'il devient de plus en plus clair. Et ici, on parle de l'importance de nourrir ce sentiment d'appel-là dans nos vies. Vous savez, l'appel, c'est quelque chose qui est vertical, dans le sens que c'est Dieu qui le place sur nos cœurs. Et vous devez sans cesse vous rappeler de ça. Ça a l'air de rien, on sait tout ça, mais quand ça va aller mal... Et quand les moments vont être difficiles, et quand le rough va être tough, se rappeler que c'est pas Francis Pearson du district Saint-Laurent qui nous a appelés. Que c'est pas l'Alliance. C'est Dieu. C'est Dieu qui a placé son appel sur nous. Et Dieu qui a confirmé ça. Et je vais m'y accrocher. Parce que j'ai le sentiment et la certitude que cet appel vertical dans ma vie, il est ancré clairement sur moi. Et ça, nourrissez ça constamment. Et j'encourageais toujours et nos ouvriers à trouver un passage, un verset. Quel est mon verset d'appel? Hein? Oh, ceux qui ont fait le nouvel envol. Quel est mon verset d'appel qui me nourrit quand les bouts deviennent difficiles? Et je me souviens, moi, dans mon ministère, mais alors que j'étais même encore en stage et à des moments de ma vie, alors que je me préparais à des moments extrêmement difficiles de remise en question qui sont venus et où je me suis posé la question, et parfois je me suis même dit, si c'est ça être pasteur, je veux pas être ça. Si c'est être comme ça, être pasteur, je veux pas être ça. Mais Dieu me rappelait que j'étais pas appelé à cause d'une personne ou à cause d'un autre ou la façon dont un pratique ou pas. Dieu m'appelle moi et c'est lui qui a son appel sur moi. Et même quand c'est difficile. Et des passages comme ceux-là viennent confirmer ça. Seigneur, rappelle-moi de ça. Apprends-moi donc, dans cet appel, non pas à dépendre de mon caractère, de ma formation, à dépendre de mes capacités, mais à dépendre de toi en toutes choses. Donc, apprendre à cultiver la dépendance de lui. En misant pas tant sur mon savoir-faire, mais sur mon savoir-être. Seigneur, cet appel-là, tu ne l'as pas confirmé parce que j'étais meilleur ou parce que j'étais full équipé. Ça aide, mais il n'y a pas que ça. Donc, être serviteur de Dieu, c'est d'abord un appel. C'est d'abord un appel et cet appel-là doit être clair et précis dans votre vie. Et je dis souvent que, et on avait ça à un moment donné comme élément de, et là je les regarde eux parce que je m'adresse à eux, vous pouvez écouter si vous voulez. C'est un appel qui est clair puis qui est irrésistible. Hein? Et Dieu le sait, Dieu l'a placé sur nos cœurs et à quelque part, il semble qu'on pourrait pas rien faire d'autre que ça. Parce que c'est clair. Dans le même passage, il y a un deuxième élément. Alors que on parle donc du serviteur, son appel, on voit également le serviteur, son onction. L'onction, c'est la façon par laquelle Dieu met à part d'une manière particulière. Il y avait à l'époque les sacrificateurs, il y avait les grands sacrificateurs qui, il y avait une onction particulière. Le roi, les prophètes avaient une onction toute particulière sur eux. Et ici, on nous dit, voilà mon serviteur sur qui mon esprit repose. Mon esprit repose sur lui. Et Dieu veut vous inviter à laisser couler pleinement son onction sur lui. Un serviteur sans onction ne peut pas servir. Il ne peut pas servir. On peut pas juste être une sorte de professionnel du service. On peut pas être juste être un professionnel du pastorat. La seule façon dont on devient professionnel dans le pastorat, c'est parce qu'on est brisé de jour en jour et régulièrement pour accomplir ce ministère-là. Et le brisement, il va en avoir souvent, il va en avoir beaucoup. Mais l'onction est là. L'appel est là et l'onction est là. Onction de diverses manières, je vais parler juste de quelques formes d'onction. L'onction de caractère, le fruit de l'esprit. D'être en mesure de démontrer ça. Paul, qui parle à Timothée, à Tite, va lui rappeler les caractéristiques essentielles du caractère de l'ouvrier. Et va lui rappeler à quel point c'est important. Et c'est intéressant que la douceur, d'être en mesure de pouvoir reprendre, mais tout ça dans la douceur, dans le caractère du serviteur, démontre à quel point le serviteur doit démontrer lui-même dans ce qu'il est le fruit de l'Esprit dans sa vie. C'est sa première caractéristique qu'il doit démontrer. Une onction de puissance. On le sait, rien ne peut s'accomplir autrement. Paul va le dire à Timothée, c'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. C'est un esprit de puissance que tu as reçu lorsque tu as reçu cet appel-là. Quand Jésus parle à ses disciples, il va leur dire ça. Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et cette puissance-là, là, c'est elle qui va tout accomplir. Et on peut, et vous êtes capable. Vous avez de grandes capacités. Et je loue le Seigneur pour ça. Et on peut planifier. On est capable de préparer. On est capable d'agendaiser. On est capable de mettre plein des affaires dans des stratégies et des choses comme ça. Sans l'Esprit de Dieu qui vient le nourrir, sans le laisser, lui, être le souffle, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Alors, j'entendais un exemple récemment, Jean était avec moi, et on parlait de l'exemple de deux bateaux. On disait l'exemple d'un bateau. Et est-ce que je suis un bateau à moteur qui drive sur un lac avec un gros moteur, Evinrude, je sais pas quoi, là, les forces de tout ça, moi, là. Mais je connais pas ça. Mais où est-ce que le chrétien est plus comme un bateau à voile, là, dans lequel le Saint-Esprit vient souffler dans les voiles? Le bateau à moteur va avoir besoin d'être crinqué puis de gaz, puis il va devoir aller chercher ce gaz-là à quelque part. Mais le bateau à voile, lui, compte sur un vent. Il doit apprendre à maîtriser les vents qui viennent. Puis ce vent-là, c'est le Saint-Esprit qui vient. Et je vous invite à laisser le vent de l'Esprit venir souffler dans vos voiles constamment. Et vous, de savoir vous ajuster, de savoir vous placer, de vous disposer pour recevoir les vents de l'Esprit qui vous guident. L'onction de service, l'onction de sacrifice, l'onction de sacrifice. C'est cette onction-là qui rend capable d'obéir à cet appel exigeant de manière sacrificielle et d'en payer le prix. Quand Jésus est venu, il a démontré ça. Il a démontré qu'il acceptait en venant vivre parmi nous, de payer le prix, d'être ce sacrifice-là. On a le témoignage de tous ces autres serviteurs-là qui ont passé par la suite, qui ont accepté par leur sacrifice de payer le prix de leur oui. De leur oui, je le veux. Et vous allez le prononcer tout à l'heure, et l'Église va vous soutenir à travers ça tout à l'heure. Et encore là, c'est un peu comme un mariage. Êtes-vous prêt à dire oui à ça? Êtes-vous prêt à accepter de payer le prix du sacrifice que ça exige? Et vous parlerez à nos vétérans qui sont ici. Et vous leur demanderez, parlez-leur du sacrifice. Parlez à leurs enfants du sacrifice. Ayez grand. Et je sais que plusieurs d'entre eux ont payé des prix immenses, mais savent qu'éventuellement leur récompense sera ailleurs. Il faut savoir les reconnaître et leur dire merci. Et alors que il y a ce sacrifice-là qui est grand, qui est immense, il y a aussi un élément qui est intéressant, dont certains endroits nous en parlent, Hébreu nous en parle, le psaume 45 nous en parle. Il nous parle de l'onction de la joie. Et là, je me dis, c'est intéressant parce que, et Jésus n'a pas regardé tout ce qu'il avait à payer, le sacrifice, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Là, tu dis, OK, Seigneur, merci, parce qu'à travers ces épreuves-là, à travers le fait qu'il y a des brisements, à travers le service qui n'est pas tout le temps facile, tu m'accordes une huile de joie. Parce que il y a une joie de voir à quel point tu transformes des vies, puis que ça vient bénir. Je me souviens rentrer à la maison après des ministères, et je sais que les ouvriers peuvent en témoigner. Et de se réjouir d'avoir vu l'action de Dieu dans la vie des gens. et de juste dire, Seigneur, merci pour ça. Et là, 2 heures après, tu apprends une mauvaise nouvelle. Mais c'est jamais long, ces moments-là, mais ils sont bons. Ils sont bons parce que c'est Dieu qui agit et c'est Dieu qui vient nous les donner comme des moments de réjouissance dans ce qu'il accomplit. Et Dieu veut donc vous accorder, à travers tout ça, recevez aussi l'onction de la joie du service. Parce que c'est une grande chose et c'est une belle chose. Et c'est le... Ben, je veux dire, c'est le fun. C'est bon. On voudrait pas être ailleurs. On voudrait pas être ailleurs parce que c'est l'appel. Donc, le serviteur a un appel, il y a une onction. Et il y a tout un ministère qui est là pour le serviteur. On retrouve ça dans verset 42. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Et un peu plus bas ici, il va dire en parlant au verset 6, pour ouvrir les yeux des aveugles et 7, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Consoler les affligés également. Quand Jésus a répété ces paroles-là dans Ésaïe, plus tard, ceux de l'Ésaïe 61 également, qu'il reprend dans Luc, quand Jésus prend ces paroles-là et qu'il les a dans sa bouche, Dieu lui confie une grande tâche, évidemment, le salut du monde. Dieu nous appelle également, et Dieu vous appelle à être à la fois une présence dans la communauté, mais également une proclamation. Et il veut que par vos vies, vous soyez à la fois présence et proclamation. Annoncez et proclamez le salut des captifs. Et vous savez, on nous parle ici, bien sûr, de l'évangile du royaume de Dieu. C'est une guerre de royaume. L'ennemi tient captif ceux que Dieu a voulu voir libres. L'ennemi les tient captifs. Et Dieu vous place dans une situation ici et vous dit, vous êtes appelés à amener une plus grande chose que ce à quoi les diverses activités dans lesquelles on les inclut peuvent même les mener. Que ce soit tous les éléments musicaux ou autres, que ce soit les accompagnements qu'on fait, l'objectif, le but ultime, c'est quoi? C'est que ces âmes-là puissent être réconciliées avec Dieu, puissent trouver Dieu sur leur chemin, puissent marcher avec lui et trouver la paix dans leur cœur et dans leur vie. Et je vous invite donc à ce ministère-là de la proclamation. Proclamation que les âmes sont appelées à être libérées pour lui et par lui. Et vous savez, c'est annoncer la justice aux nations. Et Dieu sait à quel point il y a des nations ici. Dieu sait à quel point elles ont besoin de lui. C'est un grand défi. Un grand défi d'aller vers elles. Et Sonny me partageait dans un petit mot récemment les défis que ça représente des fois d'intégration juste des fois des choses simples de la vie qui des fois sont juste pas comprises, des choses qu'on assume et à quel point Dieu nous invite donc à des transformations personnelles pour être en mesure de bien entrer, de bien communiquer cet évangile-là. Mais à la fois donc non seulement ça nous amène à nous définir et redéfinir nous-mêmes, mais ça nous amène aussi à comprendre, Seigneur, qu'est-ce que c'est quand tu dis amener la justice aux nations? De quelle justice dont tu nous parles? Et surtout dans notre société d'aujourd'hui, ici, quand on regarde toute la corruption qui existe et toutes ces choses-là, qu'est-ce que la justice? Seigneur Dieu, qu'est-ce que la justice? Seigneur, c'est la tienne. C'est la tienne et c'est celle-là qu'on veut voir triompher dans la vie des gens autour de nous. Et je vous invite donc à être porteur d'un ministère qui va transformer, parce qu'il vous transforme d'abord, mais qui va amener des nations à l'obéissance du Seigneur. Je vous parlais de la serviette blanche tout à l'heure. La dernière chose, le serviteur, on nous parle de son caractère ici. Versets 3 et 4. Il brisera pas le roseau cassé, Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et je trouve intéressant qu'il dise ça. Il se découragera pas. Et donc, il y aurait sûrement des occasions et des raisons de se décourager. Il nous invite d'une part à l'humilité en étant au service des autres, la compassion, l'importance de cette compassion. Mais le défi d'aller jusqu'au bout, le défi d'aller jusqu'au bout, d'être résilient, d'être courageux et de démontrer, je dirais, une foi audacieuse avec courage. Je partageais ça à Lévis la semaine passée, à quel point Dieu nous invite à maintenant faire preuve de cette audace courageuse alors qu'il nous lance dans ce ministère-là. À quel point nous devons faire preuve non seulement de vie audacieuse et courageuse, mais de prières qui le sont tout autant et de ministères qui le sont également. Seigneur, est-ce qu'on est encore capable de te demander par la foi d'accomplir ces miracles-là qu'on voyait arriver à l'époque du Seigneur et même au tout début de l'Alliance alors qu'on voyait des grandes guérisons arriver? Et vous savez, aller jusqu'au bout avec foi, aller jusqu'au bout avec foi courageuse et aller jusqu'au bout avec foi audacieuse. Seigneur, tu veux ça pour nous. Tu veux ça pour nous dans ce ministère-là, dans cette onction-là que tu places pour nous. Et le Seigneur vous demande de faire preuve de ça. Seigneur, on est petit, on n'est pas grand-chose, mais tu nous as choisis. Vous vous rappelez de votre propre parcours, de votre propre vie, avant de le connaître. Quel privilège que c'est que d'être ici maintenant et de pouvoir travailler et œuvrer pour lui à ce début de votre ministère, parce que Dieu vous appelle à bien plus grand, encore plus grand, parce que son œuvre est grande. Seigneur, comment veux-tu maintenant nous équiper, nous outiller afin d'accomplir ce ministère-là pour toi? Seigneur, aide-nous à être ces serviteurs-là. Aide-nous à être des serviteurs pleinement conscients de ton appel, pleinement conscients de ton onction, pleinement conscients des ministères que tu as pour nous. Aide-nous à développer le caractère de serviteur avant celui de leader. Parce que c'est ce vers quoi les gens regardent. Les gens regardent si nous sommes authentiques, si nous sommes transparents, si nous sommes vrais. Je parlais à quelqu'un récemment concernant des nouvelles églises qu'on a, puis c'est pas grave, l'importance se réunir ici ou là, puis on questionne beaucoup les nouvelles structures, puis les structures, puis on va être dans. Puis j'ai dit, je pense pas que les gens aujourd'hui questionnent tant les structures que ça. C'est le message qui est pas crédible. C'est le message que les gens remettent en question. La structure, les gens, je pense qu'ils ont. C'est peut-être juste plus les gens d'église qui questionnent leur propre structure. Les gens aujourd'hui questionnent le message. Et ils veulent savoir si, après tant d'années, parfois d'abus ou d'un message qui a été corrompu, est-ce que ce message-là est encore crédible? Soyez crédible. Soyez vrai. Puis être vrai, c'est se tromper. Être vrai, c'est savoir dire « j'avais tort » aussi. « J'étais pas parfait. » Puis les gens reconnaissent ça. Sonny Elsa, une autre onction qu'on retrouve pas dans ce texte-là, pas une onction, mais un autre élément important, c'est l'importance de vous deux en tant que couple. Vous devez être ensemble votre premier ministère. Vous devez l'être l'un pour l'autre. beaucoup de choses. L'occupation du ministère, les besoins du ministère, tout ce dont on vient de parler va venir se placer entre vous. Et peut-être parfois contre vous. J'essaie de me formuler comme il faut, là. Vous n'êtes pas votre ministère. Votre ministère, c'est ce que vous faites. Dieu vous demande d'abord de prendre soin de vous deux, de façon à ce que lui soit glorifié. Parce que l'ennemi risque, et je pense que risque, je peux même l'enlever, l'ennemi va vous attaquer là. Et en vous attaquant là, ça va hypothéquer tout le reste. Donc, que votre premier ministère soit vous deux. Et que Dieu puisse vous fortifier et vous trouver puissamment fortifié en lui en tant que couple. Et que le reste puisse fleurir. Donc, protégez-vous d'un directeur qui vous en demande trop. C'est déjà arrivé. on se parle. Hein? Protégez-vous. Mettez les limites nécessaires à la protection de cette cellule que Dieu vous a donnée. Ça, c'est important. J'aimerais vous inviter à vous lever. Et ce sera important pour vous, Église, on va arriver là. Mais pas là, je pense, parce qu'on a le projecteur qu'on va ouvrir bientôt. Hein. À la fin pour. Donc on va. Oui, OK. Donc on va peut-être vous mettre parce que ça va vous projeter dessus. Je vais me tasser. Et ce sera important pour vous, Église, de leur rappeler ça, de veiller sur eux. De veiller avec eux pour que Dieu puisse les fortifier dans ce dans quoi il les appelle et ce sur quoi il les établit et ce sur quoi il veut les voir œuvrer. Et ils vont s'engager devant vous, donc, à ce moment-ci. Et vous aurez à répondre. Donc, tout à l'heure, vous allez voir une série d'engagements que je vais lire et que eux à eux, vont répondre à ça, mais vous aussi, vous répondrez à ça. Et que vous puissiez le faire, donc, de tout votre cœur et de toute votre âme pour les soutenir dans ça. Ça va? Oui. Sonia Elsa, la responsabilité qui vous est présentement confiée est une charge sacrée et solennelle. On est incapable par nous-mêmes de le remplir adéquatement. Mais Dieu qui vous a appelé, lui va vous remplir de sa grâce, afin qu'en toute chose, en tout temps, comblant tous vos besoins, vous puissiez abonder en toute bonne œuvre. Il est impérieux que vous veilliez sur vos paroles, sur votre conduite, en étant un exemple, un modèle pour ceux et celles qui vous entourent. Mais rappelez-vous, qu'on est un modèle aussi quand on sait dire « je me suis trompé ». Votre zèle, votre conformité au Seigneur Jésus, à être transformé à son image, à être, comme disait un prédicateur, un feu, un prédicateur en feu. Et le feu, c'est le feu, bien sûr, du Saint-Esprit qui vient remplir la prédication, mais c'est aussi le feu purificateur. Le feu purificateur, quand les gens voient que Dieu est en train de vous transformer, même devant eux. Même devant eux. Et on n'a pas à tenir un rôle et dire on est au-dessus, puis vous êtes là. Les gens, quand ils voient que Dieu est en train de nous transformer, peuvent dire, hey, moi aussi je peux vivre ça. Donc, on va dire, votre conformité, Jésus, en étant à l'image de Jésus, seront copiés par les autres, seront imités par les autres. Donc, l'importance de ne pas être une occasion de chute. Apportez une attention spéciale à la charge, cette charge qui vous est confiée, en y remplissant toutes les fonctions, comme en le faisant pour le Seigneur lui-même. En acceptant cette responsabilité, vous signifiez sans réserve votre engagement et votre loyauté envers le message de l'Évangile, celui qui vous a transformé et que Dieu vous invite à utiliser maintenant, à propager pour transformer. Vous signifiez votre engagement à l'enseignement de l'Alliance chrétienne et missionnaire également et à nous, tout ce qui nous entoure. Soyez fidèles donc en toutes choses et vivez dans la présence de notre Seigneur à qui vous devez rendre compte. Maintenant, Sonny et Elsa, est-ce que vous acceptez cette responsabilité pastorale à l'Église de DDO comme une charge sacrée et solennelle venant du Seigneur Jésus-Christ?
Oui, nous l'acceptons.
Promettez-vous au Seigneur, ainsi qu'à cette Église, d'y assumer les responsabilités et ministères au meilleur de vos capacités.
Oui.
Oui, nous le promettons.
Oui, nous le promettons.
Je me tourne vers l'Assemblée maintenant. Attends que ça allume. Une dernière pour vous. En tant que dirigeant spirituel, donc vous, Sonny et Elsa, vous efforcerez-vous avec l'aide de Dieu de toujours vous appuyer sur les vérités profondes de la foi, de garder une conscience pure, de refléter Christ au milieu de ceux qui vous sont échus en partage. Amen. Assemblée. Oui, on se lève. On va se lever. C'est solennel. Donc, est-ce que vous, membres fidèles de l'Église de Dollard des Ormeaux, reconnaissez et acceptez Sonny Perronneau comme pasteur adjoint en vous associant avec lui dans l'esprit des vœux qu'il vient de prononcer devant Dieu et cette Église?
Oui.
Voulez-vous vous engager, voulez-vous vous engager à soutenir le pasteur Sonny et son épouse Elsa dans leur travail d'amour et le ministère qu'ils feront dans cette Église?
Oui, nous nous engageons à les soutenir.
Promettez-vous de leur porter respect, de les encourager, les supporter, de coopérer avec eux, de prier pour eux, comme la parole de Dieu et la constitution de nos Églises nous l'enseignent?
Oui, nous le
promettons. Donc, par l'autorité dont je suis investi en tant que directeur de district de l'Alliance chrétienne et missionnaire au Canada, il me fait grand plaisir de vous assigner à la fonction de pasteur adjoint à l'Église de l'Alliance de DDO. J'aimerais à ce moment-ci inviter les anciens à venir me rejoindre.